Radio éphémère 89.1 MHz.
Je suis désolé, j'étais pas à l'heure. J'ai débordé de 20. Il est midi et 30 secondes. Bonjour et bienvenue, vous écoutez FMR, bonjour du sport, bonjour Benoît, je vais faire relativement vite. Et ben, comme tous les samedis, Radio FMR ouvre avec ses magazines, suppléments week-end, BD, télévision. Et surtout, et ben, il n'y a pas Thomas qui est bien au chaud, suivi du cahier du sport. Et à partir de 15h, du mix avec du reggae, Zarma Farai, 17h, vie d'ordure, c'est du punk avec une interview de Nesbey. 18h, on est chez nous. 19h, Dada, une émission plutôt surréaliste. 20h, la Cétéro Expérience avec Jésus dans le rôle de DJ Fabrice. 21h30, Liquid Sky, c'est l'électro absolument disjoncté. Et à 23h, la drum and bass avec SKS et PIO, c'est Breakbeat Experience. C'est jusqu'à 4h du matin, Radio FMR en direct, en live, en public et en nouveau studio. Voilà, zou. Ah oui, non, mais là, ils nous l'ont refait, c'est une merveille. Il est beau, il est magnifique. Franchement, j'aime bien.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
On a un invité cette semaine, il est là pour parler d'une exposition qui a lieu à Colomiers. Donc vous verrez, on vous a préparé un petit programme comme ça sur le coin de la table et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. C'est Supplément Week-end. Et on y va avec des disjonctés. Petite psychanalyse.
Mr. Kirk, Dexter's in school.
I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy, but surely expulsion is not the answer.
I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane.
That boy needs therapy. That boy needs therapy.
Lie down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Granny Gazoo, let's have a chew. Now when I count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheet.
And he also made false teeth.
Avalanche is above. Business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys
and midgets,
the Indians
and what frontier psychiatrist?
I felt strangely hypnotized.
I was in another world, the world of 20,000 girls
and milkman rectangles,
two an optometrist,
a man with a golden eyeball,
and tight no buttocks,
or juice on your chin.
I promised my girlfriend I'd get
the violin.
Frontier psychiatry.
That boy needs therapy.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
Purely psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lie down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Granny Gazoo, let's have a chew. Now when I count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheet.
And he also made false teeth.
Of anything that talks other than a person.
A bird?
Yeah.
Sometimes a parrot talks. Funny when they talk.
Alors je vous dis pas, c'est un choc pour Supplément Week-end. Le top horaire n'est pas parti à l'heure. Du sport est arrivé à temps. Thomas n'est pas là. On a un invité que j'avais, je dois dire, laissé sur le palier sans le vouloir. Benoît, bonjour.
Bonjour.
Il est là pour l'exposition donc à propos et de Breccia. Ah mince, c'est pas vrai. De Alberto Breccia, excusez-moi, qui a lieu à Colomiers, c'est ça, à partir de cette semaine.
Voilà, à partir du 6 mars.
Voilà, et c'est jusqu'au 4 avril, si je
6 avril.
6 avril, voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Vous savez que j'ai la mémoire en ce moment qui flanche, voilà. En plus, le studio a été refait à neuf. Alors Thomas, c'est dommage, tu le vois pas, t'as pas la couleur, je sais, t'es pas équipé pour. Mais je te dis pas, c'est un studio absolument spatial et inquiétant. Il manque que les bidons tchernobylesques. C'est vous dire s'il y a de l'ambiance. De l'ambiance, il y en a, c'est du rififi angoumois. C'était pour faire du rififi à Paname, puisque ça se passe à Paris, effectivement, rue de Valois, au 45 rue de Valois. Ça s'est passé le 2 mars, au 5 rue de Valois, il y a la maison où habitait Serge Gainsbourg. Et il y avait tous les fans qui étaient là pour les 15 ans de la disparition du célèbre songwriter à la French. Et qu'est-ce qui se passait un petit peu plus haut? Eh bien, figurez-vous que il y a le CNL, le Centre National du Livre, et c'est dans cette institution qu'est se retrouvé tout le comité, le comité directeur d'une association qui s'appelle l'organisation du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, qui décidait du sort de Jean-Marc Thévenet. Jean-Marc Thévenet, c'est le directeur. Il a commencé comme speakerine au Festival d'Angoulême. Avant ça, il a été, si je me souviens bien, il a été rédacteur en chef de Max. Il avait fait 2-3 magazines plutôt masculins d'ailleurs, hein. Et ensuite il s'est rapproché de la bande dessinée via Charlie Mensuel. Il est arrivé ensuite, il a fait la présentation tous les ans, la cérémonie des Alphars, c'est-à-dire l'équivalent des Césars, hein, de la bande dessinée, qui a lieu tous les ans à Angoulême pendant le festival. Et ensuite il est devenu directeur organisateur. Ça fait une dizaine d'années qu'il gère ce festival. Et là il vient de se faire virer pour faute lourde. Il faut dire que monsieur, avec son salaire de ministre, faisait des ménages à côté. Le ménage en question, c'est que tout simplement, il était en train de monter un festival d'art moderne qui a lieu, si je me souviens bien, à Rouen, qui va être lancé. Et il était de moins en moins présent pour Colomiers. Et donc, les 8 salariés de Colomiers étaient, et les bénévoles se sentaient un peu délaissés. Ça a fait un petit peu de foin, c'était des rumeurs, hein, c'était des on-dit, et c'est paru dans un Charente Libre, dans un entrefilé, en plein festival, évidemment, on l'avait repéré, mais pas tant que ça, et on ne pensait pas que ça allait comme ça, enfin, et voilà, donc pour l'instant il est dans une mesure suspendatoire, si je peux dire, c'est-à-dire que l'on saura un peu plus s'il va être licencié ou non. En tout cas, l'information a intérêt à sortir plutôt vite pour les organisateurs du festival, pour une raison absolument toute simple, c'est qu'ils vont devoir très bientôt renouveler le partenariat, notamment avec le Salon du Livre de Paris, qui a lieu le 15 mars, et à ce moment-là, il y a la plupart des éditeurs et des organisateurs d'ailleurs, qui aimeraient franchement être au courant. C'est du cancan, mais que voulez-vous, hein, sur Radio Éphémère, on n'a pas peur, on remue la merde. J'allais oublier la page agenda très rapidement. Ce soir à la Brasserie Pierre, Space Yaourt, Nalistine et Nos Disques, c'est à 20h, ça coûte 3€. La Brasserie Pierre, c'est rue Périol, c'est juste derrière la gare. Et il y a jeudi prochain DJ Cam. Alors c'est dommage parce que la semaine dernière je l'avais mis en programmation musicale, c'est vraiment du street jazz, c'est-à-dire du hip-hop matinée de jazz. C'est le jeudi 9 en jam session, et c'est, si je ne me trompe, oui c'est bien beau, mais ils ont oublié de mettre l'adresse. Salle Le Cap, c'est au campus de Rangueil. Je vous avais dit qu'on avait un invité à propos d'un événement qui est plutôt rare dans le milieu de la bande dessinée en France. Il s'agit d'une exposition des planches d'un dessinateur argentin qui est quand même assez étonnant graphiquement. Il s'agit d'Alberto Breccia. Cela a lieu à Colomiers. Colomiers, pour ceux qui nous écoutent sur le net, c'est une des villes qui sont autour de Toulouse, et notamment c'est une ville qui est très active dans le milieu de la bande dessinée. Il faut dire que ça aide pour le budget municipal d'avoir sur la commune Airbus, hein, faut le dire. Voilà, ils organisent notamment le salon de Colomiers, qui est le seul événement réellement d'importance sur la région Midi-Pyrénées pour ce qui est de la bande dessinée. Et de temps à autre, ils font des animations justement autour de la bande dessinée. Benoît Auclair, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es en fait, tu as été sollicité par la mairie de Colomiers à l'occasion d'un événement qui a lieu, qui justement n'est pas en rapport avec la bande dessinée.
Voilà, en fait, cette exposition se monte dans le cadre des Biennales des musiques ibériques. Donc cette année, le thème, c'est l'Argentine. Et donc Alberto Breccia s'insérait naturellement dans ce thème. On a pu comme ça développer au Centre culturel Mission BD une exposition d'originaux donc.
Je te vois un peu largué, c'est
voilà,
pas évident.
Ça commence, ouais.
C'est pas évident, c'est normal. Juste une chose, c'est que quand même la bande dessinée argentine a quand même de sacrées stars. Elle est très vivace, elle est très portée sur le noir et blanc, sur le gag, sur le style comique, mais aussi sur le polar très noir, puisqu'on connaît Cyber Six. On connaît aussi Goscinny, qui a eu une jeunesse en Argentine. Et c'est quand même un milieu qui est extrêmement vivant. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est de voir que ça n'a pas été si colonisé que ça par le comics américain.
Non, mais en fait, il y a eu, pour le cas de Breccia en tout cas, au début de sa carrière, il a fait beaucoup de bandes dessinées qui étaient quand même très influencées par des auteurs à succès, Milton Caniff, Hogarth. Mais c'est vrai que, à l'époque, il y avait tous les jours, on pouvait trouver un hebdomadaire différent de bandes dessinées qui racontait des histoires d'aventure, des westerns, etc. Et même Breccia a commencé sa carrière en dessinant des films en bandes dessinées.
Des adaptations en strip, c'est ça ?
Voilà, qui était édité le jour même de la sortie ou même avant la sortie du film. Donc quand même, il y a eu, une période quand même assez influencée par la BD nord-américaine. Et très très vite, en fait, à partir des années 50, Breccia lui a commencé à se détacher de toutes ses influences, tout ça, pour développer une pratique très très personnelle, des recherches graphiques très très poussées. Et tout ça, en fait, ensuite, bon, il a été prof dans deux écoles en Argentine où il a eu des élèves, bon, comme Muñoz, Mandrafina, on en parlait tout à l'heure, hein, toute cette génération qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que grâce à lui, grâce à d'autres profs qui étaient en même temps que lui, je pense à Pratt par exemple, qui était un de ses grands amis, qui était en Argentine dans les années 40 et qui enseignait dans cette école, des scénaristes comme Hector Oesterheld, la BD argentine a réussi à trouver une voie très très personnelle, en fait, qu'on trouve pas ailleurs dans le monde, en fait.
Tout comme la musique, le tango et tout ça. C'est vrai que l'Argentine est un milieu artistique qui est quand même très très riche, très fort. Et Breccia, étonnamment, c'est tout naturellement, je dirais, c'est influencé à la fois justement du succès des polars, puisque les écrivains de polar argentins étaient très renommés à une époque, hein, dans toute l'Amérique du Sud, et l'art moderne, puisque il s'est essayé à énormément de styles graphiques différents.
Oui, tout à fait. En plus, il a sans arrêt fait des ponts entre tous les arts, que ce soit la littérature, il a énormément adapté. Là, on a une salle à l'expo qui est quasiment que de l'adaptation de littérature, que ce soit Sabato, Borges, Poe, les frères Grimm. Il y a beaucoup, effectivement, quand on regarde ces planches, il y a beaucoup de références à des peintres comme Otto Dix, Georges Gross. On peut voir du Michaud dans certaines planches. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans son art, en fait. Et c'est vrai que ça dépasse la bande dessinée de ce point de vue-là, parce que justement, il a réussi à tout mélanger pour avoir cette
Enfin, pour donner vraiment un 9e art de qualité.
Voilà, voilà. Et en plus, c'est une identité propre, quoi. Il a vraiment, enfin, il n'y a aucun autre auteur de bande dessinée qui a réussi à faire ce qu'il a fait pour l'instant, quoi.
D'accord. D'un autre côté, ce qui est intéressant aussi avec Alberto Breccia, c'est il a une actualité immédiate, puisqu'il y a un bouquin qui vient de traduire, si je me trompe, chez Rackham.
Il a une réédition chez Rackham du rapport sur les aveugles.
Oui.
On en a une dizaine de planches, c'est un livre très très abstrait.
C'est des originaux que vous exposez ?
On n'expose que des originaux, voilà. Il y a une centaine de pièces, des croquis, des peintures, des dessins. quelques photos où on voit Breccia en compagnie de justement Munoz. Il y a une photo avec Will Eisner. Il y a beaucoup de photos de, enfin il y a quelques photos de lui où on le voit dans sa vie quotidienne avec ses élèves. Il y a des vidéos aussi, une interview qui a été réalisée par le CNBDI et un court-métrage d'après l'adaptation qu'il avait fait de Poe de la nouvelle du Cœur révélateur. Ce court-métrage est complètement inédit en fait, donc c'est vraiment une exposition, c'est presque une rétrospective en fait. On a beaucoup de pièces.
Vas-y.
On a beaucoup de pièces très très différentes qui couvrent 30 ans de carrière en fait.
D'accord. Il y a aussi autre chose, c'est vrai que tu parlais d'Edgar Allan Poe, il est quand même assez influencé par la littérature fantastique américaine, puisque notamment il avait fait une adaptation de Lovecraft. C'est quelqu'un qui justement de ce côté-là est assez influencé par les peurs, par le bizarre.
Oui voilà, tout à fait. Bah, déjà le fait qu'il ait vécu en Argentine quasiment toute sa vie sous une dictature ou une autre, ça l'a... Lui, il s'est acharné en fait à montrer cette horreur, donc de différentes manières. Hein. Ça a pu être effectivement en adaptant, comme on disait, Lovecraft, Poe. Ça a pu être aussi, il a fait une bande dessinée qui s'appelle Dracula, où justement il montre tout ce qu'est. Cette BD a été faite à la fin de la dictature, dans les années, au début des années 90 en fait, et là il montre vraiment tout ce qu'il a vu pendant ces années de dictature. Même si c'est pas excessivement politisé, ces bandes dessinées, il y a quand même toujours des références à la vie quotidienne des Argentins en fait à son époque. Quoi.
Tout à fait. C'est-à-dire en fait, il faisait vraiment un miroir de l'univers kafkaïen et retranscrivait l'angoisse qui était palpable à l'époque.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Est-ce que ça en fait quand même justement une littérature datée ?
Absolument pas. Non, au contraire même. Enfin, il y a ça peut être daté dans le dessin sur certaines bandes dessinées du début de sa carrière, mais encore aujourd'hui il est très très avant-gardiste. Quand on voit le rapport sur les aveugles là qui a été récemment réédité, c'est vrai que c'est un travail plastique très très fort. C'est du monotype en fait. Il a fait plein de textures qu'il a ensuite découpées pour recoller, pour composer sa planche, et ça c'est vraiment un travail qu'il a mené sur très 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 longtemps. Et c'est un travail qui aujourd'hui encore reste tout à fait vraiment d'actualité quoi. Je connais pas d'auteur de bande dessinée aujourd'hui qui font ce genre de choses aussi abstraites en bande dessinée.
D'accord. Benoît, on va parler un peu plus de toi, puisque en fait cette exposition a été menée dans le cadre d'une association.
Voilà.
Et justement, quelle est cette association et quelles sont ses réalisations habituelles ?
Alors c'est le collectif La Toile. Habituellement, ça fait 5 ans que l'association existe et on édite une revue et une revue, enfin qui sort quand elle veut en fait. Et
elle est trouvable dans les supermarchés culturels ou en librairie spécialisée ?
Plutôt en librairie spécialisée et encore pas partout, vraiment.
D'accord.
Sur Toulouse, éventuellement à la Fanzinothèque de Poitiers.
Et le nom c'est ?
C'est Synapse.
D'accord.
Voilà, on a sorti le 5 pour le festival de Colomiers l'année dernière. Et à côté de ça aussi, il y a beaucoup de formats personnels. Les auteurs de la revue font des... voilà, ils font leur petits livres. Donc on a une production quand même qui est assez importante pour voir qu'on n'a pas du tout de subvention. On est vraiment... enfin, c'est vraiment avec les moyens du bord. On se débrouille avec l'argent généré par les ventes, quoi. Et donc, cet asso, avec Mathieu Bourillon et Elodie Bécheras, on avait déjà, dans le cadre du Festival de Colomiers, monté une expo de jeunes auteurs argentins, expo Ex Abrupto, il y a deux ou trois ans. Et donc c'est suite à ça qu'on a eu des contacts avec la mission BD de Colomiers et qu'on a fait l'expo Breccia. Mais sinon, l'association en elle-même, c'est vraiment une association d'édition.
D'auto-édition, voilà. En label indépendant, avec une ligne éditoriale qui est propre et qui n'est pas tournée vers le mainstream.
Voilà, tout à fait. Ouais. Ce qu'on garde de la bande dessinée, en fait, c'est le rapport du texte et de l'image, quoi. On essaye après de le faire ressortir à notre sauce. Donc ça peut être de la bande dessinée classique telle qu'on la connaît, avec des cases, voire des gaufriers même. Mais justement, enfin, c'est suivant ce qu'on a raconté, on essaie de chercher un style et une narration, une manière de faire qui soit propre à chaque histoire, quoi.
Pour en revenir à Alberto Breccia, c'est quoi qui vous a inspiré ? C'est vraiment la fascination vis-à-vis de l'Argentine, c'est le fait que ça soit un auteur qui soit très rare, c'est l'artistique lui-même, parce que c'est quelqu'un qui mélange parfois des effets un peu à la Andy Warhol ou des noirceurs, ou qu'est-ce qui
c'est tout à la fois,
c'est
en
l'occasion.
Fait, hein, c'est déjà le. Enfin, on n'avait jamais vu d'Expo Breccia, ça fait plus de 12 ans qu'il n'y en a pas eu en France. Depuis qu'il est mort, il n'y a pas eu d'Expo Breccia en France, uniquement consacré à lui. Et donc c'est vrai que nous déjà on avait vraiment envie de voir des planches de Breccia. Donc étant donné que rien n'était proposé dans ce domaine, on a été obligé de le faire et c'est parti très très vite en fait. Franchement au début on l'a fait sans y croire. On s'est dit bon, on va essayer Breccia. On appelle la personne Latino Imparato qui a les droits de Breccia en France. Mmh. Et il a été emballé très très vite et c'est parti comme ça en fait. Donc si on avait su la galère que ce serait pour monter cette expo, peut-être qu'on aurait réfléchi à deux fois. Mais c'est vrai que là, c'est tellement un plaisir, là maintenant qu'elle est montée, qu'on voit les planches vraiment accrochées et tout. C'est un très très grand plaisir d'avoir fait cette expo. Et enfin, on en est assez content, vraiment.
Voilà, tu me rappelles où c'est qu'elle est exposée, donc elle est à Colomiers.
Alors c'est au Centre culturel de Colomiers, c'est place Joseph Verseille. Donc l'expo est du...
C'est dans le nouveau centre de Colomiers, là.
Non, justement, c'est l'ancienne mairie, je crois, juste à côté des écoles. L'expo se tient du 6 mars au 6 avril et l'inauguration, c'est le 8 mars à partir de 18h.
D'accord, les heures d'ouverture ?
Les heures d'ouverture, je ne les ai pas en tête. C'est du mardi au vendredi. C'est ouvert à peu près toute la journée, je pense.
Oui, tu vas y arriver, vrai, Benoît.
Oui, non, je les ai pas là.
Dommage, bah on se renseignera, on le mettra sur le site. Benoît, en tout cas, merci d'être venu spontanément, mais tu restes ici puisqu'on va continuer dans la bande dessinée. Il est 12h22 minutes, du sport prend une gorgée d'eau et on va y aller, on va foncer avec, je vous promets, du spatial. On se fait une petite pause. Allô, allô.
Bonjour.
Bonjour. Alors là, ça s'appelle de l'inédit et c'est la preuve qu'on est écouté. Bonjour, Dr. Strange.
Bonjour à toi, Xavier.
ça fait longtemps en plus qu'on s'était pas vu, donc ça fait plaisir. Je vois que tu écoutes mon émission, c'est une heureuse surprise. Dr. Strange est connu pour ses prog musicales en tant qu'artiste, mais aussi en tant que dessinateur et collectionneur
oui,
de BD.
Dessinateur, mais surtout musicien. Tu sais, Dr. Strange, c'est dans la techno et sinon, moi j'ai commencé avec ADN Crystal dont je viens de sortir un disque qui d'ailleurs est dans le top 50 de Éphémère. J'en suis très content, merci Rascal. Et je téléphonais surtout pour Breccia, parce que Breccia c'est un maître parmi les maîtres. Moi j'ai une belle sérigraphie de Crobar signée, et j'ai connu ça avec Charlie Mansuel qui faisait les morts de Sender, que j'adore, et surtout Péramus, mais alors intouchable, il faut que tout le monde aille voir cette expo.
Ben bravo, ben tu vois, t'es un fan.
Tout à fait, mais c'est très bien.
Merci, tu me... Ben écoute, je te reprends juste après, Dr. Strange, ça me fait plaisir que tu sois intervenu à l'antenne.
Ben, c'est normal, je t'écoute tous les samedis, c'est pas trop mal ton émission.
Ah ça fait plaisir, ça fait du chaud. Hé, Thomas, t'aurais dû venir.
Oui, Thomas aussi, ouais, c'est vrai. Bon, écoute, je reste là pour que tu me files le numéro.
Ok, à tout.
Ciao à tout le monde.
Ça s'appelle du live, voilà. Et la preuve qu'on est en direct, voilà, qu'on préenregistre pas comparé à d'autres. Et du coup, on va être super rush en comparaison avec la régie publicitaire qui va nous couper. Donc, on va commencer de suite avec une bande dessinée. Ma foi, c'est la bande dessinée qui fait tâche par rapport au reste de la sélection. C'est fait un petit peu exprès, vous allez me dire. Il s'agit de Robert Kirkman au scénario et le dessin c'est Heiji Su. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est deux initiales. Heiji Su. Tech Jacket, l'armure des étoiles. C'est édité aux États-Unis par Image. C'est édité en France, c'est traduit en France dans la collection Angle Comics chez Bambou Éditions. Et c'est l'histoire de deux races extraterrestres qui se mènent une lutte à mort, les Kresh et les Geldariens. Mais les Geldariens sont plutôt faibles et ont dû créer une technologie fabuleuse, la Tech Tunic. C'est une sorte d'armure de combat qui s'adapte à son hôte et qui anticipe ses pensées. Cela ne suffit pas pour sauver les Geldariens qui sont dans une situation difficile dans cette guerre et un vaisseau s'écrase sur Terre. C'est comme ça que Zack, un lycéen boutonneux, pâteau et maladroit avec les filles, va se retrouver avec un de ses engins fabuleux greffés sur lui et impliqué dans un combat à l'échelle galactique qui en fera le héros de tout un peuple. Ouais, bon, c'est sympa. Mais ça ressemble furieusement à plein d'intrigues similaires, comme par exemple le film The Last Starfighter. Ah oui, je sais, 84, hein, ça remonte un peu. Mais hélas, sans le second degré. À vrai dire, l'intrigue est pitoyeusement prévisible, le soufflet pique même pas présent. Le côté gamin, mal dans sa peau, sur la voie de l'obésité, qui miraculeusement, grâce à une force monumentale, a du succès auprès des filles. Bah, c'est comment dire. Ouais, bon, c'est un peu éculé, quoi. En tout cas, l'influence directe avec la manga pour ados est plus qu'évidente. Par moments, ça ressemble furieusement à des mechas style Macross ou Gundam. Macross et Robotech à l'échelle humaine, parce que ce sont des grands robots, hein, ce dont je parle. Mais pour ces termes barbares, j'y reviendrai un peu plus tard, tout à l'heure dans l'émission. C'est réuni dans un album one-shot, une mini-série qui avait un potentiel, mais elle a sans suffisamment d'originalité pour vraiment laisser un bon souvenir, c'est bien dommage. Robert Kirkman et Heiji Su, Tech Jacket, l'armure des étoiles, traduit en France dans la collection Anglo Comics par Bambou Édition et édité aux États-Unis chez Image. Midi, 28 minutes et 43 secondes et la régie pub qui nous interrompt grossièrement.
100% de blé, 100% prod français, en or. Yeah. C'est parti. Pour le centre de la massive, écoute. C'est des dispos mars 2006, à la FNAC et au disquaire. Original album mixé du Central Massive, mixé par Red Eyes, animé par moi-même, MC Youthman, écoute bien. Pour le show, 100% de plaques françaises avec Swede, Selfish, Lucide, les Fantastics, Harry Hunter. Avec des tracks originales de Red Eyes, DJ Mooks et moi-même Youthman.
Paradise animé par moi-même Youthman, avec des tracks exclusifs de la scène française. Original album mixé du Central Massive à la Fnac et autres disquaires. CD disque pour mars 2006.
Même ce sample, il est extrait de cette compilation qui est absolument superbe et qui donc va bientôt arriver. Ouais, on préparait le terrain quand même hein, sur FMR. On vous l'a bien passé bien avant. Oui, je sais, c'est un peu lourd, mais bon, que voulez-vous. On repart dans l'espace, s'il vous plaît. Allez, dites-moi, on passe des femmelettes qui ont besoin d'un truc pour s'affirmer auprès des filles à des vraies filles de l'espace avec des gros canons. Vous en voulez ?
Ouais,
merci l'enthousiasme. Avec Mobius Suit Gundam, plus exactement une série dérivée de cette immense saga, ça s'appelle École du Ciel. Le cinquième tome vient d'arriver en France chez Pika Edition. Haruhiko Mikimoto est le chef de studio, c'est-à-dire c'est le dessinateur, mais il n'est pas seul. Hein. Ils sont 8 derrière, hein. On a les pages des assistants à la fin. Je parlais tout à l'heure de Gundam ou de Macross, plus connu en France sous le nom de Robotech. Il s'agit de deux immenses sagas japonaises animées qui ont été créées toutes les deux à la fin des années 70, début des années 80. Comme la plupart des séries télé qui sont produites au Japon ou même aux États-Unis, elles sont sponsorisées toutes les deux par des fabricants de maquettes, des très grands concurrents du jouet. Je vais juste dire que pour Gundam, ça commence par un B. Et ça finit par un Itrema, voilà. Excusez-moi. Et le succès respectif de ces deux séries est à la fois dû à la passion des fans que cela a généré, mais aussi à la créativité renouvelée des industriels mécènes qui ont largement récupéré la mise, hein, quand même. Et des studios d'animation qui sont derrière, faut pas oublier l'artistique. À tel point que, de bêtes séries guerrières, les deux eurent de nombreuses séries dérivées, parfois étonnamment sentimentales, voire d'un propos plus mûr, comme par exemple Macross Plus, qui se termine par un concert en live d'une chanteuse virtuelle où ils ont tout misé sur la musique. C'était bien avant l'arrivée de Cowboy Bebop et tout ça. C'est vraiment ça qui a lancé le genre de la série musicale. Et bref, ça fait que toute une génération de collégiens qui ont été immédiatement mordus et qui étaient de vrais fans, et ben ils ont mûri. Je veux dire que 30 ans ont passé, pas mal en sont encore des mordus, ils dilapident leur salaire là-dedans, ils connaissent sur le bout des doigts le moindre élément de la série, genre j'identifie une arme uniquement à son ombre, ou rien qu'au bruit que fait le téléviseur, je peux te dire quand a été faite cette munition, ou te donner la généalogie de chaque protagoniste. Au Japon, cela s'appelle un otaku. S'il vous plaît, c'est un terme qui est extrêmement péjoratif, contrairement à ce que l'on a pu croire de nombreux Français. Ça indique une vie sociale très à l'écart de la moyenne. Bah ouais, bon, allez, on va prendre un exemple. Prenons le cas d'un Anglais qui a été fan du film Star Trek en 79, a revu la série originelle, s'est enfilé depuis toutes les déclinaisons, a dépensé 500 000 livres sterling pour transformer sa maison du Hampshire en intérieur USS Enterprise et qui se retrouve d'ailleurs en faillite financière. Bref, qui a passé 25 ans de sa vie comme fan hardcore. Bah même sa nana l'a plaqué, tu m'étonnes. Revenons au bouquin. Gundam École du Ciel, c'est une BD qui s'intercale entre deux épisodes clés de la saga Mobile Suit Gundam. En fait, j'avais vu les deux premiers tomes de Gundam École du Ciel, j'ai trouvé ça amusant, l'idée d'Asuna, une gamine timide et maladroite qui se retrouve dans une caserne pour apprendre à manipuler d'immenses robots de combat. Je me suis dit, bon allez, pour le tome 5, je fais un effort, je relis les tomes 3 et 4 que j'ai zappés et je fais un joli sujet. Oui mais voilà, je suis devenu grave accro. Alors que je ne connaissais que vaguement l'ordre de succession des séries et très brumeusement l'intrigue générale. Puisque en manquillant les tomes 3 à 5, j'ai appris qu'Asuna, cette fille qui est tout sauf habilitée à utiliser une immense machine à tuer anthropomorphique, est en fait le fruit d'une manipulation génétique qui possède du gène extraterrestre ennemi, qu'elle a un jumeau, Akira, issu de la même expérience, devenu pirate de l'espace, qu'elle a rejoint en désertant l'armée. Bon, rien que là, on bouleverse complètement le destin habituel des personnages principaux de toutes les séries Gundam. Ça consiste soit à sauver la Terre et les humains, soit à prendre du galon dans l'armée. Jamais à déserter l'armée, tu vois. Ça, jamais, il en est hors de question. Ensuite, il y a le graphisme du studio mené par Haruhiko Mikimoto. Étonnamment, le graphisme est très... est très doux, les personnages ont une réelle personnalité, voire ils sont touchants. Mais d'un autre côté, le respect parfait du moindre mecha, jusque dans les modifications faites par certains personnages. Car dites-vous bien qu'en plus du lectorat lycéen, c'est-à-dire du lectorat normal qu'on s'attendrait pour ce type de série, il y a une horde de fans trentenaires derrière, prêts à inonder d'insultes les auteurs et l'éditeur au moindre écart de conduite sur les uniformes, la mécanique, se plaindre auprès de l'industriel. Car si ça reste complètement virtuel, uniquement de la fiction, certains en ont fait leur vie. Et du coup, pour ne pas leur déplaire, le sponsor industriel, l'éditeur et les auteurs sont obligés de garder la cohérence très forte de l'univers qu'ils reprennent en fait au fur et à mesure. Mais aussi de renouveler complètement l'esprit de la série, surtout que les dessinateurs font partie justement de cette horde de fans absolument acharnés. Résultat, la série École du Ciel, faussement naïve, est très riche et elle reste accessible aux néophytes comme aux néofans. C'est un très joli tour de force que je vous recommande, Mobile Suit Gundam. Le tome 5 d'École du Ciel vient de sortir chez Pika Edition, c'est chez Haruhiko Mikomoto. Autant que je me souvienne, Gundam a été publié au bout d'un moment chez Glénat et ensuite repris chez Pika. Vous n'hésitez pas à vous couper s'il y a un truc qui vous choque, si vous avez une question. N'hésitez pas à me mettre en difficulté. Dans la SF, à ce qui paraît c'est pas fini. Avec Yukito Kishiro, Gun Last Order, tome 7 chez Glénat. La richesse de l'univers, le scénario hallucinant et toutes les inventions graphiques firent de la série Gunma un succès immédiat et absolument culte. Vous vous souvenez comment j'ai porté ça, j'ai pas arrêté, je sais pas, hein, ceux qui sont auditeurs réguliers savent que j'en suis fou. Et c'est des histoires de cyborgs au corps fabuleux, ça fait un peu penser à Hajime Sorayama, vous savez, le dessinateur japonais qui fait tout super chiadé, des filles super séduisantes avec des corps métalliques, des gros billes boulonnées de partout et bouffies de puissance, et tout ce beau monde qui s'entre-détruit dans de titanesques chorégraphies mécaniques se terminant dans d'hallucinantes explosions de pièces détachées à la George Dao, le tout avec de la dispersion de cervelle, seule partie encore organique de ces êtres vivants cybernétisés. Fallait que ça continue. Surtout que le dernier tome de Gunma, la série principale, laissait un blanc gigantesque. On savait que Gally avait retrouvé sa mémoire effacée de Yoko et qu'elle avait réussi à monter l'échelle de Jacob, de quitter la décharge terrienne pour monter dans la cité suspendue Zalem jusqu'à Jéru dans l'espace. Échelle de Jacob, Jéru, Zalem, ok. Vous voyez le style. Mais c'était que dans le dernier chapitre du dernier tome, et c'était même pas dans les 16 dernières pages. Et c'est justement cette montée irrésistible qui est décrite dans Gunma Last Order, où on, pour retrouver la puce cerveau de son ami Lou, tous ceux qui furent ses compagnons d'ailleurs eurent un destin tragique, et ben Gally se décide de faire équipe avec l'infâme docteur Desti Nova. Et pour sauver Lou, le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est de détourner l'attention en participant à un fantastique tournoi d'arts martiaux robotisés pour pouvoir forcer la fabrique de puces cerveau. Non, cherchez pas à comprendre. L'humanité en dehors de la Terre est largement plus dégénérée qu'à la hauteur des pâquerettes. Elle rencontre des adversaires délirants comme un clown tueur et un hypnotiseur fou. Pour un tournoi d'arts martiaux, c'est du délire. Et en même temps, eh ben, elle a sa mémoire d'ex-combattante martienne, Yoko, qui lui revient. Le pétage de plomb devient continu. Déjà, la série était très matinée, genre Mad Max. Là, c'est carrément du délire spatial métaphysique absolument explosif. Faut dire aussi qu'à la différence de la plupart des mangaka, comme par exemple ceux de Gundam dont je parlais, Yukito Kishiro fait partie des rares dessinateurs japonais qui travaillent absolument seul. Ce qui donne un dessin de science-fiction très léché, comme Masamune Shirow, ou encore, on a parlé récemment de Blame ou de Icar. Et ce dessinateur est même désormais une référence, puisque vous pouvez voir actuellement en Vichy les affiches des films Underworld Evolution et celui du DVD Underworld. Et bien ce n'est qu'un vulgaire pompage de ces couvertures qu'il a fait pour Gunma. C'est vous dire franchement si ça marche bien. Il faut dire qu'aux États-Unis, ça s'appelle Battle Angel Alita. Ils ont fait une animation exprès pour les États-Unis qui a été une catastrophe. Et on parle d'une adaptation au cinéma par un grand, grand, grand de la SF. Il s'agirait de celui qui aurait fait Terminator. Eh. C'est l'inconvénient de travailler seul pour Yukito Kishiro, c'est qu'il faut du temps, beaucoup de temps. On en est à des vitesses de sortie proches de la Franco-Belgie, sauf qu'il produit quand même dans les 192 pages par album, et c'est super chiadé, c'est du noir et blanc très bien foutu, avec des trames, des hachures absolument hallucinantes. Voilà, moi je suis grave accro. Gunma Last Order, tome 7 chez Glénat de Yukito Kishiro. On continue avec, là aussi, un immense succès, mais cette fois-ci français. Jean-David Morvan au scénario, Philippe Boucher au dessin, c'est Sillage, évidemment, les histoires de Navis. Sauf que si vous rajoutez au dessin Pedro Colombo, Bruno Duhamel, Enrique Fernandez, Laval NG, Nicolas Nemery, Gérald Parel, ça s'appelle Les Chroniques de Sillage. Le tome 3 vient de sortir dans la collection Néopolis chez Delcourt. Et Morvan et Boucher continuent sur leur lancée de leur héroïne fétiche. Mais ils proposent un album particulier dans cette série filles. D'abord, on reprend l'intrigue du cinquième album de la série principale, Sillage, celui au titre incompréhensible. On en reprend l'univers glauque, les personnages désespérés, et on en tire cinq récits qui réunis deviennent une histoire complète. Pour chaque récit, un dessinateur au style très différent. Cela donne un coup de frais incroyable pour un univers déjà extrêmement riche. L'idée de cette immense caravane intergalactique qu'est Sillage, avec des milliers de races extraterrestres et son unique humaine à bord, a complètement débridé l'imagination des deux auteurs qui s'en donnent à cœur joie. Alors quand en plus ils invitent d'autres dessinateurs pour qu'ils fassent une interprétation graphique très libre de leur propre univers, c'est du bonheur en barre. Ça s'appelle une grosse baffe dans la gueule. Car vous y verrez une Navis dépressive qui va s'encanailler, se mettre à la débauche et à la drogue, un immonde trafic d'organes menant immanquablement à la mort, le désespoir d'un peuple paria, celui d'orphelins qui n'auront jamais la chance de goûter à la richesse quotidienne de Sillage. D'habitude, quand on dit série dérivée, on sait qu'on va perdre à la fois l'effet de surprise, mais aussi l'entrain de la série originelle. Eh ben, c'est faux. Cet album est incroyablement fort, littéralement noir. C'est une idée superbe et parfaitement appliquée. En plus, elle donne envie de relire les tomes précédents. Jean-David Morvan au scénario, Philippe Boucher au dessin, mais aussi Pedro Colombo, Bruno Duhamel, Enrique Fernandez, Laval NG, Nicolas Nemery, Gérald Parel. Les Chroniques de Sillage, le tome 3 vient de sortir dans la collection Néopolis chez Delcourt. Et waouh. Et pour ceux qui ne le savent pas, supplément week-end, c'est en direct à 12h45 des nouveaux studios de Radio FMR. On a fait un joli coup de peinture. Mais la couleur orange est toujours là quand même, même si c'est beaucoup plus noir. Et c'est impressionnant, hein. Je vous dis pas comment ça pète, c'est... Ouais, c'est... On transformera ça un jour en plateau télé, vous allez voir. Et je rappelle que le orange, c'est la couleur fétiche de la radio et qu'on a des badges qu'on vient de sortir. Ouais, old school et tout, ouais, ouais, tu vas voir. J'en ai un là, sur mon truc, tu vas voir.
soit encore plus beau. Petite fille pâle aux étoiles, petite fille rêve des comètes, petite fille passe dans l'espace, elle est sur notre planète. Quand elle veut s'amuser, elle prend sa fusée, sa fusée, sa fusée. Technique, tes revolvers sont en plastique. Petite fille jette des paillettes, petite fille stresse dans sa tête, elle voyage dans son télescope, et quand sa capsule se détache, la fusée part dans un flash. Orange, 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 orange.
Petite fille des étoiles, de retour dans notre fusée analogique de couleur orange. Avec du sport. Bonjour du sport, tu vas bien?
Bonjour.
Ben voilà, ben c'est vrai. En plus, on va passer de l'Argentin, puisque je rappelle pour ceux qui nous sont pris en cours d'antenne, c'est que pour l'exposition autour de Alberto Breccia, Benoît Auclair est notre invité. Donc voilà, donc il s'est pas beaucoup exprimé depuis tout à l'heure. Pardon. On y va, du sport.
Alors on va commencer par le tout venant quand même, hein, les deux grands messes qui vont avoir lieu ce soir et demain soir. Déjà ce soir, les Victoires de la Musique. Alors je veux dire, j'ai pas du tout suivi, je suis pas au courant.
Bah c'est très simple, il y a les intermittents du spectacle, il y a contre le CPE, il y a pour la loi DADVSI, il y a contre la loi DADVSI. Nous on est contre les DRM et contre la loi DADVSI. Allez sur le site ucd.info et encore tout plein d'initiales à la con. Donc voilà.
Voilà, c'est ça la soirée des Victoires de la Musique. C'est sur France 2, demain soir, c'est Canal+ qui propose la 78e. Ça fait pas 78 fois que Canal+ vous la diffuse, non, je vous rassure quand même. Parce qu'il a quand même fallu attendre un certain temps pour que les Oscars soient diffusés à la télé américaine déjà. Hein. Alors bon, Canal, non, même pas. Bref, c'est demain soir, donc à partir de 20h, décalage horaire oblige avec Los Angeles, qui a sur place Laurent Veil, bien entendu, hein, le transfuge de M6. Et pour les commentaires, bien au chaud à Paris, mais en direct live quand même, Cad et Olivier. Alors bon, ben, ça peut
ça
être
m'inquiète,
rigolo,
ça m'inquiète.
Peut être rigolo, on sait jamais.
Ouais, mais bon, quand on a vu les NME, les MTV Music Awards, Euro Music Awards commentés quand même par Bolloc et Bruno Le Solo.
Ouais, bon.
C'était ouais, catastrophique.
Ouais,
hein.
Ouais, mais bon.
Aucun rapport.
Ouais, mais justement, là, je pense que le manque de rapport sera mieux exploité, je pense, par Cad et Olivier que par. Les deux autres tâches. C'est demain soir donc à partir de 20h avec même des petites émissions avant et après sur Canal+. Sinon de la télé-réalité, ouais, on a deux petits trucs pas mal, deux petites émissions bien sympathiques. Hein. Pas des adaptations non, mais tout simplement bah, des émissions. Originale, plus ou moins retraduite, avec des petits commentaires et tout ça. Alors, il y en a une qui promet d'être vachement rigolote, et c'est con parce que je m'y suis attelé ce matin, sinon j'aurais pris le disque hier, et puis ça aurait été cool, tu vois, on aurait pu illustrer musicalement. Oh, on a le temps, remarque, hein, parce qu'il y a plusieurs parties. C'est une émission qui s'appelle Tommy Lee Goes to College. Tommy Lee, c'est qui? C'est l'ex-batteur de Motley Crue.
Ah oui!
Le mec de Pamela Anderson, l'ex de Pamela Anderson, enfin, ils sont quittés, ils ont fait des gosses, ils ont fait une vidéo qui a bien tourné et tout de cul, deux même je crois deux il me semble, ils sont remis ensemble, enfin bon bref, ça revient. Tommy Lee c'est un personnage, d'ailleurs son dernier disque c'est une grosse merde, déjà quand il jouait avec Motley Crue au moins il faisait du bon métal, ça allait, ça, c'était bien, c'était Motley Crue quoi, tout simplement. Mais alors là son dernier disque, ben, écoute, on passera un morceau la semaine prochaine, tu vas voir, c'est pas piqué d'un ton, non, je te jure, pire que Bon Jovi fait du rock à sa place.
Non mais attends, Bon Jovi, Bruce, alors, il le passe encore, donc il peut pas avoir pire que Scorpion.
Ouais, hein. Ouais, mais bon, bah écoute, Bruce, c'est Bruce. Alors Tommy Lee Goes to College, le principe bien, est très simple, hein, c'est Tommy Lee qui retourne à l'école, retourne sur les bancs de high school quand même, hein, attention, hein, c'est-à-dire l'équivalent pour nous des classes de première, terminale, juste avant le bac, juste avant l'université. Et Tommy Lee donc bah, va rejoindre les bancs de cette université. C'est décliné en 6 épisodes de 26 minutes. Alors il est aidé par des jeunes filles fort avenantes et tout. Alors plutôt que regarder les feuilles, le mec il mate les tétons de la nana, enfin des trucs comme ça. Ça peut être vachement rigolo. C'est diffusé sur NT1 mardi prochain à partir de 20h45 à raison de 2 épisodes par semaine. Donc Tommy Lee Goes to College. Dans un style radicalement différent, où là c'est plus un jeu, où il s'agit de piéger des gens, enfin bon, l'inversion des gens, vous voyez un petit peu le truc, on avait déjà eu le mari idéal qui était pas mal. Enfin tu vois, genre on casse les codes, on casse un petit peu les codes, hein, on induit les gens un petit peu en erreur. Un truc qui devait être décliné en version française, voire en version européenne, voire française, mais qui ne s'est pas fait. Bon, on comprend pourquoi, parce que la version originale suffit amplement. Il s'agit de Myriam et les garçons. Myriam et les garçons, ils sont 6, mon petit gars, 6 pour une nana, bah mon gars, ça promet. Mais bon, on va dire que le sujet est un petit peu défloré, c'est le cas de le dire, par la présentation qui en est faite pour la version française par Vincent McDoom. En effet, Myriam n'est pas une fille. Myriam est plus ou moins quelqu'un qui a changé quelques attributs, on va dire, de place. Si tu vois ce que je veux dire. Mais je peux te dire que dans le trailer et dans la pub que tu vois sur TF6, Myriam est vachement bien gaulée. Hein. Là, je peux te dire que... Laisse tomber, quoi. C'est diffusé à partir de mercredi prochain.
Ah, le mauvais jeu de mots. Ah, laisse tomber. Oh non.
J'en dirai pas plus, c'est du Xavier. Hein. C'est mercredi prochain sur TF6 à partir de 22h20. Il y a pas deux épisodes, mais enfin bon, c'est sur 2h, donc je suppose que ça va être en une émission. Ils vont te faire le condensé des différentes émissions qu'il y avait sur l'émission, enfin sur la présentation originale. Voilà pour donc ces deux émissions de télé-réalité. Tommy Lee Goes to College, ça a l'air plus intéressant quand même, hein, que Myriam et les garçons, surtout ouais. Que si on connaît déjà au départ le truc, hein, tu vois quoi.
Je viens de me faire flammer par Thomas et Sabrina qui t'envoient le bonjour, et Sabrina qui me dit c'est très bien Scorpion. Wind of Change oblige. Je sais pas si c'est en rapport professionnel ou quoi que ce soit. Enfin bon. Oh, on passe littéralement de choses.
On parle de série à présent, et comme je vous parlais de TFC juste avant, hein, pour la diffusion donc de Myriam et des garçons mercredi prochain, ben, à 22h20, c'est juste après la diffusion des deux épisodes de, à la suite de Doctor House. Doctor House, cette série dont je vous ai parlé la semaine dernière, vu que mercredi dernier, ben, a lieu la diffusion des deux premiers épisodes, hein, que dire de plus, donc le pilote filmé par Bryan Singer, ouais, je vais pas en rajouter. Au départ, je me suis dit que vu le sujet un petit peu, on va dire, rébarbatif de la série, hein, bon, c'est encore une série en milieu hospitalier, mais là, c'est plutôt des enquêtes, hein, le Dr House, le Gregory House, Gregory de son prénom, agit plus à la manière d'une espèce de Sherlock Holmes, hein, pour résoudre des difficultés, des pathologies qui sont, on va dire, assez rares, hein, quand même. Avec son équipe de médecins, avec son équipe de spécialistes triés sur le volet. Alors, ça nous rapproche un petit peu de Regenesis, ça nous rapproche un petit peu dans un autre domaine, on va dire, des experts, de toutes ces séries dérivées où, bon, une équipe faite des meilleurs, dans chacun dans sa matière, mais chargée de résoudre des crimes, des enquêtes, enfin des petites choses comme ça. La différence quand même tient justement au personnage principal, le Dr House, hein, qui est un docteur qui se déplace avec une canne parce qu'il a un accident de voiture, me semble-t-il, enfin bon, donc il se déplace avec une canne, et son sens de la répartie, son ton acariâtre, et son intelligence hors norme aussi. Faut dire, hein, avec des répliques, ça fuse, hein, c'est absolument brillant. Hein, faut dire ce qui est quand même, et on n'a qu'un regret, c'est de pas pouvoir se taper la version originale. Tout simplement, c'est une excellente série donc à suivre. Au départ, hein, je me suis dit, je vais quand même suivre le début, la première, l'épisode pilote, voir le deuxième épisode, mais bon, ça risque de. J'étais parti avec un a priori un petit peu défavorable, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'action, hein, c'est pas d'action à la urgence ou attention, grand NFS, chimie, Yono, et que je te balance le chariot avec le cadavre dessus, enfin le mec, le truc sanguinolent à travers les couloirs, et pam, la porte qui claque et tout, les gens qui s'écartent au dernier moment. Non, c'est un peu plus calme quand même, mais c'est pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal, c'est excellent. Je pense que c'est une série qui mérite tout à fait le bien qu'on en dit. Une autre série,
qu'on en dit. D'accord, ok.
Ne complique pas la langue française, qui est assez compliquée comme ça. Une autre série dont je vous ai parlé dernièrement, c'est The Closer, hein, qui en est à sa troisième, c'est sa troisième diffusion, donc c'est demain à partir de 17h, hein, avec Kyra Sedgwick dans le rôle principal. Il y a J.K. Simmons également, hein, l'infâme Schillinger dans la série Oz. Et je vous parlais la semaine dernière à propos de Crime Story, hein, de Dennis Farina et de Anthony Denison, hein, dans le rôle de Ray Luca, hein, de la série Crime Story. Et Anthony Denison est en fait un personnage régulier, hein, qui vient de faire son apparition dimanche dernier dans la série The Closer, et qui vient rejoindre l'équipe d'enquêteurs sous la direction de Kyra Sedgwick, qui joue le rôle donc de la patronne de cette équipe de détectives qui œuvre à San Francisco. C'est tous les dimanches, c'est pas mal, c'est aussi une série assez intéressante, donc avec la nana en plus, elle est patronne de sa brigade et tout, mais alors, comme elle vient d'Atlanta, elle connaît pas du tout San Francisco, alors elle est toujours avec sa carte et tout. Bon, bah, je vous rejoins dans 5 minutes, peut-être que je vais voir arriver 2 heures plus tard sur les lieux de l'enquête. Ouais, je me suis perdu un peu, ouais, tout, ça s'appelle Meloland partout ici, c'est merde, c'est fichier.
Tiens, j'ai quelque chose. Ça, quoi. C'est la première fois que je passe au top sonore avec les filles.
Ouais.
Allez, The Closer, donc, qui est diffusé aux États-Unis sur une petite chaîne câblée, hein, qui s'appelle TNT. Hein, elle n'est pas diffusée sur un gros réseau.
Ouais, mais TNT, ça fait partie du groupe Turner, si je me trompe.
Ouais, mais
c'est Warner.
C'est quand même diffusé uniquement sur le câble aux États-Unis, c'est quand même une série qui a grignoté quelques nominations comme ça au dernier Emmy Award. Veronica Mars à présent, bah voilà, on y arrive quand même à Veronica Mars, qui compte déjà 2 saisons, et chez nous ça débarque que mercredi prochain, hein, mercredi prochain, grosse concurrence donc mercredi prochain entre Doctor House sur TF6 et Veronica Mars sur 13ème rue. Le pitch, allez, je vais me lancer dans la lecture. Ça se passe dans la ville de Neptune et les habitants de cette ville se divisent en deux catégories. Les familles des hommes d'affaires et autres stars de cinéma extrêmement riches et les familles de leurs employés. Au lycée, le clivage se répercute et sépare les élèves riches et populaires des autres. Véronica Mars, qui est jouée par, interprétée par Kristen Bell, est la fille de l'ancien shérif, faisait partie de la faune débranchée jusqu'à ce que sa meilleure amie, la sœur de son ex-copain, soit assassinée. Que son père, interprété par Enrico Colantani, se fasse renvoyer pour avoir accusé le père de la victime et que sa mère disparaisse. Elle est devenue une paria, donc elle passe son temps libre à aider son père qui s'est installé comme détective privé. Un moyen pour elle de tenter d'éclaircir le mystère de la mort de son ami et quelques zones d'ombre et de gagner sa vie, sa réputation de détective s'établissant très vite auprès de ses camarades. Voilà, vous avez la description in extenso pratiquement de cette série donc, dont le rôle principal est interprété par Kristen Bell, créée par Rob Thomas Productions, Joël Silver, qui met également ses billes
quand même
dans la télé, comme ça on sait jamais, ça peut rapporter. Donc,
bah, surtout c'est Bruckheimer. Hein.
Ouais, également diffusé comme The Closer sur une petite chaîne UPN qui est une filiale de CBS. Donc également au départ, bon, bah, vers la fin de la première saison, il parlait carrément de virer la série. Genre que c'était pas terrible, que c'était un peu glauque, un peu sombre, quoi, c'est pas gentil. Alors que dans Buffy, ok, tout le monde s'en sort quand même et tout, c'est quand même pas mal, c'est sympa et tout, tu vois. Et là, bon, bah, c'est un petit peu moins joyeux, on va dire. Hein. Quoique, Buffy, quand même, ça se passe, ça a été tourné dans des décors qui rappellent étrangement, et c'est normal, c'est les mêmes que ceux de Nip/Tuck et de Pensacola. Quand même, pour la bonne bouche, il y a deux épisodes qui sont diffusés donc à partir de mercredi prochain sur 13e rue, le pilote qui s'appelle Mars Investigation, et le deuxième, La Belle Vie à Crédit, avec comme guest star Paris Hilton. Ah ouais, un petit peu de rediff comme ça pour repasser du côté des séries avec NYPD Blue qui est rediffusé, mais là ils ont décidé. Alors tu vois, c'est là que tu comprends pas les chaînes françaises qui déconnent quand même un petit peu, parce que France 3, ils se sont dit on va commencer à diffuser NYPD Blue, qui est une excellente série policière,
de
une
référence.
Des meilleures. C'est une référence. Des années 90, de toute façon, ça a modelé un nouveau style, quoi, au niveau de la télé, au niveau du langage à la télé, au niveau de la façon de d'écrire un petit peu et tout ça. Et NYPD donc a été diffusé par France 3 depuis maintenant pas mal d'années, mais ils avaient commencé par la saison 7, c'est-à-dire qu'ils avaient occulté toutes les premières parties avec Bobby Smith, dont la première saison donc avec David Caruso. Occasion est faite de la revoir. François rediffuse NYPD Blue à partir de la saison 1.
Je tiens à signaler que sur le foutoir de la diffusion des chaînes hertziennes, on a gagné un premier combat puisqu'il y a une déprogrammation ce soir sur TF1 de la ferme. Ils avaient peur de se faire doubler par Arte. Et donc, ils vont passer CSI New York. On a hurlé comme des putois parce qu'ils le passent en vrac. Et là, il y a TF1 qui a fait un communiqué hier soir.
CSI Manhattan.
Voilà, CSI Manhattan. CSI NU dans ce cas-là, ok. Et ils vont les passer, les épisodes, ils vont essayer de reprendre l'ordre parce qu'ils nous ont passé déjà l'épisode numéro 7 et l'épisode numéro 12 sans avoir passé la 6 ni la 11. Essayez de comprendre. Donc voilà, donc là on repart dans un peu plus de respect envers l'œuvre et surtout le téléspectateur qu'on est.
Ouais, mais enfin le mal est déjà fait en ce qui concerne les experts, je suis désolé quoi. Ouais, j'en reviens donc avec NYPD Blue, donc qui est diffusé quand même vachement tardivement par France 3 le lundi soir à partir de 23h25. Mais là donc c'est la première saison, celle avec l'inspecteur Kelly alias David Caruso, qui est à côté de Sipovic. Sipovic, lui,
le David Caruso de CSI Miami.
Ouais, c'est ça, le même. Ouais. Oh, et le David Caruso que tu vois dans le King of New York d'Abel Ferrara, qui avait tourné le pilote de Crime Story, dans lequel apparaît également un David Caruso tout jeune, tout poupon, avec des joues encore et tout. Il est mignon, il est magnifique, mais il dure pas longtemps, il dure que le pilote. dans les deux épisodes qui sont proposés lundi soir, outre David Caruso et les autres, donc. On a un voisin qui est vachement devenu un mec vachement connu par la suite, parce qu'il joue également une sorte de voisin d'ailleurs dans la série qui l'a rendu célèbre. C'est David Schwimmer, qui est le voisin de Sherry Stringfield, qui est la petite amie de David Caruso. Et Sherry Stringfield, en fait, elle a quitté la série quitte David Caruso dans un des épisodes suivants de NYPD Blue pour rejoindre une autre série qui allait devenir vachement célèbre, Urgence, Sherry Stringfield, Suzanne Lewis. Docteur Suzanne Lewis, tu comprends. Et David Schwimmer, et donc le voisin qui habite donc juste à côté, et il va avoir une drôle d'embrouille, c'est le titre de l'épisode de NYPD Blue, avec David Schwimmer qui allait devenir célèbre avec sa série Friends, bien entendu, Ross, hein. Ok. L'autre épisode s'appelle Une rancune tenace. On va voir comment Sipovic il commence à foutre la merde avec le mafioso. Il a une embrouille avec un mafioso et tout. Et le mafioso il a carrément essayé de le descendre. La rediff également de la série Trafic. J'en ai déjà parlé. Hein, il y avait déjà une diffusion sur Arte il y a 2 ans, je crois. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui est à l'origine de l'excellent film de Soderbergh, hein, qui a tout pompé, mais alors tout l'histoire, la trame, tout le bordel, là Trafic c'est la série, 6 fois 50 minutes, hein, c'est une coproduction anglo-germanique, hein, il y a des acteurs anglais, des acteurs allemands, et comme ça se passe au Pakistan, hein, puisque bon bah ça il s'agit de trafic d'héroïne là dans ce cas-là, et bien au Pakistan, donc des interprètes pakistanais. Ça passe, c'est rediffusé par France 4 mardi prochain à 20h50, 2 épisodes à la suite avec Tito Bruckner, avec Bill Patterson, Julia Ormond et bien d'autres. Enfin bon, la série vachement intéressante. Parce qu'on voit bien les différents aspects des combines à tous les niveaux, hein. Les passeurs, les flics, les gros bonnets, les petites mains.
C'est vraiment de...
Et dans la série, tu vois comment ils fabriquent les héros à partir des trucs et tout, du début jusqu'à la fin. C'est vachement bien foutu. Mais avec des moyens que tu crois pas que c'est comme ça, c'est tout simple. C'est avec juste des gros pots en terre et des linges, et bah, on transforme le pavot en héroïne. Excellent. Très très bon. Bon, il n'y a pas que ça qui est bon, hein, je veux dire, mais vraiment très très bien. Hein, excellent. Parce que ça raconte également l'histoire d'un petit mec au Pakistan, quoi, qui va devenir qui va devenir malgré lui trafiquant. Il va se lier avec un mec qui est un gros trafiquant qui expédie la grosse partie de la dope en Europe. Enfin bref, c'est vraiment très très bien comme série, et c'est vachement plus long, c'est vachement plus dense, vachement plus touffu, hein, que le film Trafic, qui est néanmoins un excellent film. Donc c'est diffusé à partir de mardi prochain 20h50 sur France 4, et donc en plus c'est de la TNT, tu vois quoi, c'est cool.
Ouais, super, je vais pouvoir le suivre.
C'est une FX, ce n'est pas sur la TNT.
J'ai un fond.
Tu as un fond pour Ciné FX. Et t'as de la chance parce qu'en plus, je vais te faire la semaine sur Ciné FX alors que je n'ai même pas cette chaîne.
Et moi, j'y suis abonné, nananère.
Ça commence ce soir. Alors c'est tous les jours à 21h, hein, de toute façon, hein, comme ça c'est vachement simple, merci les gars. Cinéfix qui est une chaîne qui a été créée par des gens qui faisaient partie du groupe AB, hein, Berda, Azoulay Berda Production, AB, vous savez, Dorothée, toutes les séries japonaises des années 80.
Et les Allemandes.
Et les Allemandes et tout ça. Ouais. Tout ça.
Tous les polars allemands, c'est eux. Et ils ont un catalogue.
Tout ce catalogue, génial.
Et ils ont une bonne partie du catalogue UEFA en France, et ils ont tout un catalogue de cinéma absolument énorme, et donc ils ont fait avec tout ce qu'on appelle le back catalogue, avec toutes ces archives, ils ont fait 2 chaînes à 2 balles, c'est le cas de le dire, ça c'est pas grand chose,
pas 2 balles, mais enfin bon, ils se démerdent quand même pas trop mal, on va dire.
Il y a des très bons trucs, hein.
Ce soir alors un petit série B tranquille sympathique qui s'appelle Déviant, qui est quand même interdit au moins de 12 ans, de Michael Baffaro. Alors le film est coproduction tchéco-anglo-germanique, un truc comme ça, de 98, avec Chris Thomas Howell et Scott McNeil. Le pitch, c'est un homme avide tente de faire main basse sur un stock d'émeraude et se retrouve embarqué dans un vaisseau spatial. C'est ce soir à 21h.
Ah, c'est du grand, hein.
Là,
c'est
déjà,
du grandiose.
Ça donne envie, ouais. Déjà, c'est du lourd. Le dimanche, eh bien, on est plus classique et on se la joue un petit peu ciné-club quand même. Et là, bah, on se la joue franchement ciné-club parce que c'est quand même du top, avec une soirée fantôme de l'opéra. La première version à 21h, ouais, c'est celle de Terence Fisher de 62 avec Michael Goo, Heather Sears et Herbert Lom. Qui
Elle est
Herbert Lom?
Je ne sais
Herbert bien. Lom, c'est un acteur qui est tchèque et qui a fui la Tchécoslovaquie lors de l'invasion des troupes nazies de la Tchécoslovaquie. Il s'est barré en Angleterre où il a fait quelques petites voix dans l'animation, dans les courts-métrages. Puis il est parti de l'autre côté de l'Atlantique. Il a commencé à tourner en 1940. L'autre côté de l'Atlantique, et sa carrière a duré 45 ans, vu que son dernier film date de 85. Et il est vachement connu. Son nom, son premier nom, c'est pas son vrai nom, hein, Herbert Lom. Il l'a dû un peu l'européaniser ou même l'américaniser, on va dire, car son vrai nom, c'est Charles Kuchasevich ze Schluder Pacero. Ça, c'est du vrai tchèque de compétition. Herbert Lom, il est son rôle le plus mémorable, bien entendu, c'est celui du patron de l'inspecteur Clouseau. Ah voilà.
Ah d'accord.
Et tout s'éclaire. Ding, comme ça quoi. Et donc c'est lui qui joue le qui interprète donc un des rôles principaux dans le fantôme de l'opéra.
On m'a dit que c'était le premier film en couleur.
Terence Fisher en 62, un des premiers
films. Un des premiers films en couleur, ouais.
En couleur. Non, pas un des premiers en couleur. Arrête tes conneries quand même.
Bon d'accord, OK. Ben je vais fouetter le collègue qui m'a dit ça.
Non. À 22h55, une autre version vachement juste connue, enfin pour les grands amateurs de ciné fantastique. Cette version du Fantôme de l'Opéra, c'est celle de Arthur Lubin avec Nelson Eddy, Susanna Foster et Claude Rains surtout. La version de 43, lundi ciné français à 21h avec Tom et Lola, un film de Bertrand Arthuis de 90. Une histoire de deux enfants bulles hein, qui, au bout d'un certain moment, bah, décident de sortir de leur bulle. Les enfants bulles, c'est
qui n'ont aucun système,
ils ont pas de système immunitaire, voilà. Donc ils sont obligés de rester dans des espèces de trucs en plastique comme ça, avec plein d'assistance médicale. Et donc ces deux enfants décident de se barrer, de se tirer de leur chambre. C'est interprété par Neil Stubbs, Mélodie Collin et Catherine Fro. Ah, mardi à 21h, un truc intéressant, The Ice Pirate, que c'est tellement bon qu'ils n'ont même pas décidé de faire traduction française au titre, hein. Les Pirates de la Glace de Steve Rafield, 84, avec quand même Robert Urich, Spencer For Hire, Marie Crosby et Angelica Houston. Dans ce film, l'eau est l'enjeu d'un conflit intergalactique dans un futur lointain. Tu vois un peu le pitch. Mercredi, La Nuit du Loup-Garou, encore un Terence Fisher qui date de l'année précédente, le fantôme de l'opéra de la version du même Fisher, en 61 avec Clifford Evans, Oliver Reed, qui là est méconnaissable vu que c'est lui le loup-garou.
C'est ça, oui, bah forcément.
Et
oui.
Yvonne Robin. Quant au film de série Z, c'est le jeudi soir sur Cinéfix avec Super Argo contre Diabolicus. Un film italo-espagnol de 67 de Nino Nostro avec dans le rôle principal, et je te le donne en mille, le mec s'appelle Ken Wood.
Ah non.
Il y a également Gérard Ticci et Giovanni Gianfriaglia. Putain, j'avais encore répété celui-là et je suis de toute façon pas.
Respire. Pense à un autre commentateur sportif qui va avoir du mal cet été. Hein.
L'histoire de Super Argo contre Diabolicus, en fait, c'est un ex-catcheur qui est devenu agent et qui est confronté à un criminel diabolique. C'est pas du pitch excellent.
Je propose que tu vas reprendre ton souffle là. Et oui, il n'y a pas que les vieux films qui valent deux balles, il y a aussi des films quand c'est des trucs. Enfin bon.
Ah, et pourtant, je l'avais répété, quoi. C'est pour ça que j'ai les boules. On termine avec vendredi prochain, donc toujours sur CinéFX, L'épée sauvage d'Albert Pyun. Alors lui, un spécialiste du cinéma B et cinéma Z. Là, c'est un vieux Albert Pyun, 82, avec Lee Horsler, devant ce qu'il fout là, hein, Catherine Belair et Richard Lynch. Une histoire de méchant sorcier qui fait chier tout le monde.
ça c'est du résumé.
Voilà, ce sera tout.
D'accord, merci.
Donc je rappelle hein, vraiment pour les deux séries de la semaine quand même, Véronica Mars, c'est une première diffusion mercredi prochain sur 13e rue, mais en même temps, à la même heure pratiquement sur TF6. Doctor House. Donc bah, faites votre choix, je suis désolé, hein, c'est vrai que c'est comme ça et pas autrement. Et sinon, bon, jetez quand même un coup d'œil ce soir donc, aux experts Manhattan. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas programmer ces experts n'importe comment, et enfin ils les programment n'importe comment. C'est également parce que selon le degré de violence de certains épisodes ou d'images crues, on va dire, eh bien certains épisodes sont catégoriés, on va dire, pour des plus adultes, pour des plus matures, et donc selon les quotas de diffusion en France pour les chaînes françaises, eh bien certains épisodes ne sont pas regardables avant une certaine heure, et donc bah c'est également un petit casse-tête. Puis voilà, je prends un petit peu la défense des chaînes françaises quand même.
Ouais, mais
c'est
bon,
également un petit casse-tête au niveau de la programmation, hein, de ces épisodes dans leur continuité, dans enfin bon, c'est également
ils les remontent de toute façon, parce que sinon Urgence serait indiffusable en journée, quoi. Mais ils les remontent de toute manière, alors dans ce cas-là plutôt passer à 22h30, comme ça on a la paix et passer dans l'ordre. Mais bon, je comprends pas cette manie de foutre 2-3 épisodes la suite et tout ça. Enfin bon, on va pas en revenir plus longtemps. Allez, hop zou.
Et c'est pour rattraper le format d'un film cinéma, tout simplement, hein.
Bon, je crois que le débat va continuer en antenne. C'était Supplément Week-end avec du sport et en invité Benoît Auclair. Benoît,
merci bien, et
j'espère que tu as passé une bonne petite heure et quart avec nous.
Écoute,
en notre compagnie.
Cool.
Donc c'est pour l'exposition autour de Alberto Breccia, c'est à Colomiers. Donc
voilà, du 6 mars au 6 avril, le vernissage est le 8 mars à partir de 18h.
D'accord, et ben on n'hésitera pas. C'est un auteur donc argentin qui est à découvrir. Il faudra en profiter parce que c'est plutôt rare, donc c'est plutôt une exposition exceptionnelle. La suite des programmes sur Radio FMR. Avec, ça c'est du sport qui est à ma droite, Zarma Farai qui fait du reggae, c'est à partir de 15h, c'est de la musique. 17h, Vie d'ordure, du punk avec en interview Nesbey. Je sais pas comment ça se prononce. 18h, on est chez nous. 19h, Dada. À 20h, on continue dans le supernaturel, si je puis dire, dans le surréaliste, avec Last Hetero Experience, c'est à 20h. Je suis sûr que Fabrice, comme il est à la Freebox, il doit regarder lui aussi Cinéfix, je sais pas, il faudra lui poser la question. 21h30, Liquid Sky, et à 23h, de la drum and bass avec Breakbeat Experience. Radio FMR, nous sommes en direct jusqu'à 4h du matin, voire 5h sur les 89.1 MHz. Vous pouvez réécouter Supplément Week-end sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, ou sinon vous cherchez Supplément Week-end FMR Podcast. Vous pouvez vous y abonner si vous avez iTunes ou un logiciel comme Google Reader, ou si vous avez un compte Yahoo, hop, vous abonnez et vous recevez automatiquement les nouveaux fichiers MP3. Voilà, vous pouvez les réécouter, revenir en arrière, réécouter, resuivre, etc. Commenter sur les forums. Donc voilà, il n'y a pas à dire. Supplément Week-end, rendez-vous la semaine prochaine, see you soon, avec Thomas. Je cède la place à du sport.